partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Notre collaborateur Axel Maugé est l'auteur d'un essai intitulé « Les élites argentines et la France », un essai publié par les éditions de L'Harmattan. Pour Canal Academy, il propose une série de portraits merveilleux francophiles argentins. Il évoque ici l'un de ces merveilleux francophiles argentins, l'esthète Francisco Bullrich. Ce portrait se compose de deux émissions. En voici la première et vous pouvez trouver la seconde dans notre médiathèque.
Un ami de la France, l'esthète Francisco Bullrich. Depuis mon arrivée dans cette ville envoûtante de Buenos Aires, je baigne dans un formidable climat de francophilie. Hier matin, Carlos Calatroni m'a téléphoné à l'hôtel en me disant « Je veux que vous veniez rencontrer un vrai seigneur, un autre ami de la France ». Ravi de cette proposition, je lui ai demandé le nom de ce personnage. La réponse n'a pas tardé. Il s'appelle Francisco Bullrich. C'est un architecte réputé, aussi en cette fin d'après-midi du mois de mai, début d'un hiver austral qui n'a rien de rigoureux, tant que le pampero ne souffle pas, sautai-je dans un taxi comme un héros d'Adolfo Bioy Casares et me retrouvai-je au pied d'un bel immeuble situé dans le quartier de Palermo Chico. À peine ai-je poussé la porte de l'ascenseur à l'étage qu'un visage harmonieux s'offre à moi, un sourire l'éclaire, tout dans l'accueil indique que j'ai affaire à un homme pétri de bonnes manières. Francisco Bullrich n'a rien d'un bourgeois content de lui, il a le maintien d'un aristocrate. Des sourcils assez épais, foncés, tranches sur la chevelure blanche, poétique, qui met en valeur le front, vaste fenêtre ouverte sur les idées, l'échange, l'amitié. Le regard est profond, il mène à la vie intérieure. Plein de dynamisme, mieux même de magnétisme, signe de richesse véritable, tel m'apparaît Francisco Bullrich. Il appartient certainement au petit groupe de ceux qui, placés en face d'un tableau de Chagall, en apprécient les vivantes métamorphoses. J'ai devant moi un être imaginatif. Nous faisons connaissance au cœur d'un salon moderne éclairé par quelques œuvres d'art. Au fil des minutes, en l'écoutant, je découvre les premières traces de l'histoire d'une grande famille argentine. Le roman de ce francophile commence vers l'âge de 5 ans, lorsqu'il apprend le français, sans pour autant être privé du plaisir de se familiariser avec l'anglais et l'allemand. C'est sa mère qui, ayant fait ses études secondaires en France, l'incite très tôt à s'intéresser à notre pays et au royaume des cultures. Il a eu de la chance d'appartenir à ces fameuses familles argentines fortunées, lesquelles venaient résider des mois, voire des années à Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, parce que la France, en ce temps-là, était moins chère que l'Argentine, devenue un véritable Eldorado. On ne sait pas toujours qu'en 1930, l'Argentine, c'était le sixième pays le plus riche du monde. Pour que les enfants puissent boire du lait frais chaque jour au cours du voyage, en bateau, leur famille emmenait avec elle une ou deux vaches qu'elle donnait ensuite au capitaine une fois arrivée à bon port. Vivre ainsi dans une capitale mondiale éveiller les consciences et susciter des vocations. Je parle bien sûr de Paris. L'ascendance de Francisco Bullrich témoigne de la diversité de la provenance des immigrants européens venus développer l'Argentine. Parmi ses ancêtres, on retrouve surtout des Allemands et des Espagnols. L'arrière-grand-père maternel, arrivé en 1840 à l'âge de 13 ans, a réussi à bâtir une énorme fortune grâce à la richesse de la terre de cette pampa alors en plein essor. En 1890, cet aïeul, homme généreux, géniteur de 14 enfants, était considéré comme l'un des plus riches propriétaires terriens. Au cours de l'entretien, Francisco Bullrich me confirme que l'immigration française en Argentine était importante au XIXe siècle. Il est intéressant de souligner, ici, se fait oublier car en général les Français n'aiment guère s'expatrier. À cette époque, les principaux courants d'émigration française alimentaient soit l'Afrique, soit l'Amérique du Nord. Aussi est-il étonnant de découvrir que plus de 150 000 de nos compatriotes sont venus développer l'Argentine. Parmi ces Français, Basques et Bretons ont occupé, comme toujours, le premier rang. Cet homme féru d'histoire, dont Chagall, j'en suis sûr, aurait aimé peindre le visage, est doté d'une mémoire assez exceptionnelle. En quelques phrases bien senties, il me décrit soudain le siège de Montevideo qui eut lieu de 1841 à 1851. Les trois quarts des habitants de la ville assiégée par le général Rosas étaient alors des Italiens, des Anglais et des Français. Nul autre qu'Alexandre Dumas raconte les circonstances mouvementées de ce siège dans un ouvrage haletant qui s'intitule « Montevideo, la nouvelle Troie libérée ». Quelques statistiques puisées en 1894 montrent l'ampleur de l'immigration européenne dans ce pays frontière. Cette année-là, si nous étudions l'ensemble des hommes âgés de 18 à 41 ans, on s'aperçoit qu'il y avait 7 nouveaux arrivants pour un Argentin né dans le pays. Aussi, le milieu politique eut-il besoin d'accueillir des immigrés de fraîche date dans ses rangs. Pas moins de 2 présidents de la Chambre des députés en exercice nommés avant 1913 avaient été naturalisés depuis peu. Toujours en considérant cette période, l'on constate que pas moins de 6 présidents de la République appartenaient à la première génération de colons. L'un d'entre eux, du nom de Carlos Pellegrini, originaire de Chambéry, occupa la charge suprême à partir de 1890. Francisco Bullrich est incollable. Lorsqu'il s'agit d'évoquer l'histoire de son pays, il ne cesse de me surprendre, surtout lorsque je l'écoute réciter le nom des 36 présidents que l'Argentine a eus depuis sa fondation. Maintenant, il y en a peut-être d'ailleurs 37. Tel un roman de montagne, la voix de Francisco Bullrich compose devant moi un vaste panorama politique historique de sa patrie. Cet homme doté d'une mémoire prodigieuse, une mémoire multiple, visuelle notamment, puisqu'il pratique la peinture, connaît aussi bien les noms des présidents que leurs portraits. Lorsqu'il se lève soudain pour me montrer quelques tableaux qui m'intriguent, il s'exécute avec souplesse. Il y a du félin chez Francisco Bullrich. Les toiles ornant les murs du salon m'interpellent. Il en a peint plusieurs. L'une d'entre elles, comble d'arrondis érotiques, terminée en 1975, s'appelle avec raison « Joie de vivre ». Il m'est agréable d'être chez quelqu'un soucieux d'harmonie, soucieux de vraie vie, pour reprendre une formule chère aux surréalistes. Près de la baie vitrée, une autre œuvre, cette fois du peintre argentin Pollicello, témoigne du goût de Francisco Bullrich pour la peinture concrète. Ce tableau d'inspiration planétaire où prédomine le rouge et le jaune apparaît assez proche d'une œuvre de Vasarely. Mon hôte m'apprend que de nombreux peintres argentins ont vécu à Paris entre 1919 et 1929. Durant cette décennie marquante, des artistes comme Berni, Butler, Basaldúa, Forner et Spilimbergo ont travaillé dans les ateliers d'Otton Frase et d'André Lhot. Depuis, de nombreux autres peintres ont pris la relève. Cette francophilie encore florissante en Argentine, Francisco Bullrich considère qu'elle provient d'une fascination pour tout ce qui est artistique et littéraire. Or, la France a toujours excellé dans ces disciplines. N'est-elle pas reconnue comme la République des lettres et des arts ? Mon interlocuteur sait de quoi il parle, puisque la divine Victoria Ocampo était la cousine germaine de son père, comme le monde est petit. Or, l'on sait à présent le rôle prédominant que cette dernière a joué non seulement dans les relations entre la France et l'Argentine, mais dans les relations entre l'Argentine et plusieurs autres pays. Aussi est-il bien informé sur la vie de Victoria Ocampo grâce à Eduardo Bullrich, un de ses oncles, qui faisait partie du groupe des 6 membres du bureau argentin de la revue Sûre. Ce fut lui qui réalisa la couverture de la revue. Francisco Bullrich se souvient parfaitement avoir vu Victoria la première fois lorsqu'il était enfant. Elle portait avec munificence ses 48 ans. C'était une femme impressionnante de beauté, précise-t-il. Altière, grande, le port sûr, le regard ferme mais doux, elle conduisait sa voiture, jamais de chauffeur, sans la moindre hésitation. Dès qu'elle sortait, elle portait des lunettes de soleil avec une armature blanche qui cachait des yeux ensorcelants. Elle était fort consciente de sa beauté. Têtue comme une mule, elle imposait son autorité naturelle à ses sœurs. En cas de controverse, ses tantes lui donnaient systématiquement raison, même lorsqu'elle avait tort. Au fil des années, Francisco Bullrich a enregistré de nombreux témoignages sur Victoria Ocampo, notamment celui d'une de ses tantes, Julia Bullrich de Saint, protectrice de Bathory, parce qu'elle adorait la musique et jouait à merveille du piano. Cette dernière a aidé entre autres le colonel de Basile et son ballet russe, si connu à Monte-Carlo exilé à Buenos Aires de 1939 à 1942 pour des raisons que l'on imagine. C'était une grande amie de Victoria Ocampo et de sa sœur Silvina, auteur de qualité, mariée à Adolfo Bioy Casares. Victoria Ocampo, me confie mon hôte, apprécia infiniment les deux frères de son père. D'abord l'aîné que je viens de citer, Eduardo J. Bullrich, membre du groupe qui a édité la revue Martin Fierro 1924-1927. Il l'a aidé plus d'une fois à peaufiner la revue Sur. Ensuite, Enrique et Bullrich, un mélomane ami de Stravinsky. Ce deuxième frère fonda avec Victoria l'Association philharmonique de Buenos Aires. Il s'agit d'un aspect peu connu d'une activité menée parmi tant d'autres par la belle Argentine. Elle a en effet donné sans compter de sa personne et de sa bourse pour que les œuvres de Stravinsky et de Honegger soient diffusées en Argentine. Victoria participa, ce que l'on ne sait pas toujours, à la direction du théâtre Colón, le principal opéra en Amérique du Sud. Cette femme, souligne Francisco Bullrich, avait un sens prodigieux de l'intégration des arts et de la valeur des différentes formes artistiques. Elle se passionnait autant pour l'architecture moderne, Le Corbusier, Walter Gropius, que pour la musique, le ballet, la peinture, etc. C'est grâce à sa générosité de mécène que le congrès mondial du Pen Club put avoir lieu en 1937 à Buenos Aires. Stefan Zweig, Thomas Mann et Drieu La Rochelle y participèrent de 1939 à 1944. Elle soutint financièrement Don José Ortega y Gasset, exilé à Buenos Aires.
Vous venez d'entendre la première partie de cette émission consacrée à Francisco Bullrich. La seconde partie est disponible à l'écoute ou au téléchargement dans la médiathèque de Canal Académie. Pour y accéder, tapez Francisco Bullrich ou Axel Mauger dans le moteur de recherche de la page d'accueil du site canalacademie.com.